Vous écoutez bien Radio France Internationale. Il est 8h à Washington, 13h en temps universel. Dernière partie d'RFI Midi, nous sommes sur le continent américain et à la une, il y a ce changement de ligne diplomatique des États-Unis concernant l'Ukraine et la Russie. Donald Trump prévoit de parler de la fin du conflit en tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Nous appellerons notre correspondant et nous verrons ce qu'en pense la presse aux États-Unis. Nous serons également en ligne avec notre confrère haïtien Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste, pour parler de ces nouvelles attaques hier contre Pétionville. On parlera aussi de la difficile question de la mémoire au Pérou après la guerre qui avait opposé la guérilla du Sentier Lumineux aux forces armées dans les années 80 et 90. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand. Les corps des deux dernières victimes du crash aérien survenu à la Dominique ont enfin pu être récupérés.
Récupération hier après-midi rendue possible par les spécialistes du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Précision à suivre.
À tout à l'heure. Et tout de suite, le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
Avec un sentiment de trahison en Ukraine après l'initiative de Donald Trump, prise donc avec Vladimir Poutine.
Oui, depuis l'investiture de Donald Trump, les Ukrainiens attendaient fébrilement de savoir quelle serait la position du président américain à leur égard. Ils sont maintenant fixés et le sentiment d'abandon est grand sur place. Donald Trump a donc annoncé une prochaine rencontre avec son homologue russe. Des négociations seraient lancées par Washington et par Moscou pour mettre fin au conflit. C'est bien sûr un tournant majeur à l'approche du 3e anniversaire de l'agression russe en Ukraine. Hier soir, aucune mention n'a été faite des Européens entre Trump et Poutine. Ravi de son tête-à-tête avec Washington, dont elle juge qu'elle lui donne un brevet de superpuissance. Ce matin, la Russie a enfoncé le clou. Sur place, Anissa El-Jabri.
Bientôt, les élites européennes se jetteront aux pieds de leur maître en agitant doucement la queue. C'est signé Vladimir Poutine. Le propos prononcé il y a 11 jours lors d'une conversation avec un média d'État reflète bien la pensée du chef de l'État russe. Les États européens, il les qualifie sans cesse de marionnettes des États-Unis. Reste que, signe parmi d'autres que les échanges avec l'équipe Trump avançait dans son sens, jamais il n'avait été aussi brutalement direct et méprisant, cité dans la presse américaine. Cette phrase a ensuite été repostée dans les heures qui ont suivi par Donald Trump sur ses réseaux sociaux. Sans surprise, à la mi-journée, le porte-parole du Kremlin a enfoncé le clou, désigné, sans les citer, la France et l'Allemagne comme de mauvais acteurs diplomatiques. Paris et Berlin, partis du processus de Minsk 1 et 2, après l'annexion de la Crimée et la déstabilisation russe du Donbass. Écoutez Dimitri Peskov.
Bien entendu, l'expérience des accords de Minsk est très éloquente. Nous tiendrons compte de cette expérience dans nos démarches futures. Quant à la participation de l'Europe, encore une fois, il n'existe aucun format pour un éventuel dialogue, un éventuel processus de négociation. Il est donc prématuré d'en parler.
La Russie pense déjà à un éventuel assouplissement de certaines sanctions et là encore fait ce pari, celui d'une division des Occidentaux qui ne pourrait que lui profiter. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
En Allemagne, le chef du gouvernement régional de Bavière évoque un probable attentat. Une voiture a foncé sur la foule ce matin à Munich où étaient rassemblés des manifestants de la fonction publique. Dernier bilan, 28 blessés dont certains grièvement. L'auteur présumé est un demandeur d'asile afghan de 24 ans. Son acte survient en pleine campagne pour les élections législatives en Allemagne. Le scrutin, je vous le rappelle, se tiendra en fin de semaine prochaine.
Un incident aérien entre Pékin et Canberra.
Oui, alors qu'un avion australien effectuait une patrouille de routine au-dessus de la mer de Chine méridionale, un avion de chasse s'est approché et a lâché des fusées éclairantes. Lila Okinawara, bonjour.
Bonjour Gilles.
Rien de grave au final, aucun blessé. Mais une rare montée des tensions entre la Chine et l'Australie. Les deux se rejettent la responsabilité de l'incident.
Une interaction dangereuse et non professionnelle, un risque pour l'appareil et l'équipage. Le ministère australien de la Défense ne mâche pas ses mots pour qualifier l'incident survenu mardi. L'avion militaire australien survolait les îles Paracel, un vol qui respectait le droit international pour Canberra. Faux, se justifie Pékin, pour qui c'est une violation de l'espace aérien chinois. Or, ces îles sont également revendiquées par le Vietnam et Taïwan. Un exemple parmi d'autres des revendications maximalistes de Pékin sur 80% de la mer de Chine du Sud. Une zone cruciale pour la sécurité régionale et une voie maritime vitale pour le commerce international. Les escarmouches sont régulières entre la Chine et les pays riverains comme les Philippines, plus rare avec l'Australie. Ce mercredi, Pékin a lancé des patrouilles de routine en mer de Chine, une réaction aux exercices militaires conjoints de l'Australie avec les États-Unis et le Royaume-Uni la semaine dernière. Les trois pays forment depuis 2021 l'alliance militaire AUKUS. Son objectif, défendre la liberté de circulation en mer de Chine, autrement dit, contrecarrer les revendications de Pékin.
Lila Olkinouara en direct dans ce journal. Merci à vous, Lila.
Encore une conférence internationale sur la Syrie.
Oui, la troisième depuis la chute de Bachar al-Assad, c'était le 8 décembre dernier. Cette fois, c'est Paris qui accueille ce jeudi pays arabes, européens, membres du G7 ainsi que l'ONU. Au menu des échanges, l'avenir d'une Syrie en pleine reconstruction et la mobilisation internationale en faveur des nouvelles autorités. Toutes les divisions de la guerre civile sont loin d'avoir disparu. Illustration à Alep, la deuxième ville du pays. Alep, où deux quartiers sont encore contrôlés par la coalition kurde FDS. Reportage de notre envoyé spécial Guilhem Deltay.
Le quartier de Sheikh Maksoud a été le refuge de nombreux Kurdes d'Afrine lorsque les groupes pro-turcs ont pris le contrôle de leur ville. Mustafa Habash y habite depuis bientôt 8 ans et Sheikh Maksoud reste pour lui un abri aujourd'hui encore.
Nous ne pouvons pas circuler librement. Il y a une semaine, à l'extérieur, ils ont arrêté 30 personnes. Bien sûr, cela nous touche. Nous ne pouvons pas partir et revenir sereinement.
Équipé d'un fusil, Assad est en faction à un carrefour. Le jeune homme fait partie du comité de protection de Sheikh Maksoud, une force de bénévoles kurdes.
Ici, il y a une majorité kurde. Ashrafi et Sheikh Maksoud sont kurdes. Afin d'éviter des injustices contre la population kurde, nous avons besoin d'une autorité kurde dans ce quartier.
Mais dans le quartier de Sirian, à quelques pas des quartiers contrôlés par les FDS, cette présence du groupe kurde dérange, voire inquiète. Lorsque le régime a perdu le contrôle de la ville, elles ont avancé, rappelle Georges Khoudari.
Avant que le HTS ne prenne la ville, les limites de Sheikh Maksoud étaient plus loin. Mais ils ont avancé et étendu leur contrôle. C'est la même chose que ce qu'ont fait les Israéliens.
Les nouvelles autorités et les FDS ont entamé des négociations autour de l'avenir des territoires encore contrôlés par les Kurdes. Un motif d'espoir pour Amar Akra. Pas seulement pour Alep, mais que toute la Syrie soit réunifiée, dit-il. Bertrand Eclair, Ahmed Al-Khalaf, Guilhem Deltay, Alep. RFI.
Le territoire mexicain surveillé par des avions espions américains.
Oui, ces deux dernières semaines, plusieurs missions de surveillance auraient été menées par l'armée américaine aux frontières du Mexique. Si le gouvernement mexicain assure ne pas connaître l'objectif de ces missions, tout porte à croire qu'elles font partie de la guerre de Donald Trump lancée contre les cartels. Sur place à Mexico, Marine Le Beg.
18 vols en 10 jours, a compté le média CNN, contre un vol par mois en temps normal, du jamais vu. Le gouvernement mexicain a fini par admettre avoir localisé deux de ces vols, mais sans en connaître la mission. Sans entrer dans l'espace aérien mexicain, ces avions américains spécialisés dans l'espionnage ont volé tout proche de la frontière nord et de la côte ouest du Mexique, au large du Sinaloa, région contrôlée par le cartel surpuissant du même nom. Des destinations loin d'être surprenantes. Dès son arrivée au pouvoir, Donald Trump a déclaré la guerre au cartel mexicain, qu'il accuse d'être responsable de l'épidémie de fentanyl qui décime les États-Unis. Il y a deux semaines, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a accepté d'envoyer 10 000 militaires à la frontière entre les deux pays pour empêcher l'entrée de fentanyl sur le sol américain. Déploiement obtenu par Donald Trump en échange d'une pause d'un mois sur les droits de douane que le président américain veut imposer au Mexique et qui risquerait d'asphyxier l'économie du pays. Marine Le Beg, Mexico RFI.
En bref, avant de conclure, nouvelle flambée de violence au Cachemire, territoire que se disputent l'Inde et le Pakistan. Les armées des deux pays ont échangé des tirs hier à la frontière très militarisée qui divise le Cachemire. Islamabad fait état d'au moins 4 blessés. Très bonne journée sur RFI. Je vous laisse en compagnie d'Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Prochain journal à 14h, temps universel. Oui, c'est ça. Et nous, pour l'heure, nous sommes sur le continent américain.
RFI Midi. L'actualité d'Haïti et des Amériques.
Cela n'était pas arrivé depuis 3 ans. Un coup de téléphone, un lien direct entre le président américain et son homologue russe, et pas des moindres. Donald Trump et Vladimir Poutine ont annoncé l'ouverture immédiate de négociations de paix pour l'Ukraine. David Thompson, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Cet appel, il marque vraiment un virage spectaculaire de la diplomatie américaine.
Oui, depuis son agression contre son voisin ukrainien, Vladimir Poutine est un chef d'État sanctionné, mis au ban de la communauté internationale par les États-Unis. Il faut se rappeler qu'au même moment, en Ukraine, les soldats russes sont encore pilonnés avec des munitions américaines livrées à l'armée ukrainienne. Mais avec Donald Trump, tout change. Trois semaines après son arrivée à la Maison-Blanche, il fait ce que Joe Biden avait totalement exclu depuis trois ans, un entretien téléphonique de plus d'une heure et demie avec le leader du Kremlin. Une très bonne conversation, très productive, se réjouit Trump, pour lancer, dit-il, des négociations de paix immédiates avec l'Ukraine. « Nous sommes sur le chemin de la paix », dit Trump. « Le président Poutine veut la paix, le président Zelensky veut la paix, je veux la paix », dit Donald Trump, qui espère un cessez-le-feu dans un futur, dit-il, pas si lointain, et qui va jusqu'à lancer une invitation aux États-Unis à Vladimir Poutine, qu'il invite lui-même au retour en Russie. Jusqu'ici, paria, Poutine se retrouve donc au rang de partenaire légitime grâce au président des États-Unis. C'est d'ailleurs lui que Trump a appelé en premier, et Zelensky en second.
Qu'est-ce qu'on sait du plan Trump pour l'Ukraine, David ? Puisque de nombreux commentateurs américains y voient déjà une victoire pour Vladimir Poutine.
Oui, le président Trump a capitulé devant Poutine avant même que les négociations ne commencent. Voilà ce que dit John Bolton, son ancien conseiller à la sécurité nationale, car au même moment, depuis Bruxelles, le ministre de la Défense américain douchait les espoirs ukrainiens. Revenir aux frontières d'avant 2014 est un objectif irréaliste, dit Pete Hegseth, en ajoutant que les États-Unis ne pensent pas que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit non plus un objectif réaliste. Poutine obtient donc exactement ce qu'il voulait, conclut John Bolton. Ce sont les termes d'un accord qui aurait pu être écrit au Kremlin.
David Thompson, correspondant de RFI aux États-Unis. Ce changement de ligne de l'administration s'affiche en une de la presse que vous avez lue. Vincent Souriau, bonjour.
Bonjour.
On parlait tout à l'heure de l'Europe, de l'inquiétude. Eh ben, aux États-Unis aussi, c'est bien cette mise à l'écart qui fait les gros titres.
Oui, l'Europe d'abord marginalisée alors que le conflit se déroule sur son sol. Personne n'a prévenu à Bruxelles, Paris ou Berlin qu'une conversation avec Poutine était au programme. Mais CNN rappelle que Trump se fiche de la sécurité des Européens. Ce qu'il veut, c'est que les États-Unis cessent de payer. Et on n'entre pas dans une nouvelle ère des relations transatlantiques, remarque le consultant Nicolas Dungan. On entre dans une nouvelle ère où les rapports entre les grandes puissances en viennent à supplanter les institutions internationales. Autrement dit, cette fois dans Politico, c'est le moment que redoutaient l'Europe et l'Ukraine depuis des mois, voire des années. Mais la soudaineté et l'ampleur de ce plan dévoilé par Donald Trump ont laissé tout le monde sous le choc. L'Amérique se retire et renonce au rôle qu'elle a tenu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Désormais, c'est aux gouvernants européens d'assurer seuls leur défense ainsi que celle de l'Ukraine.
Vincent Souriau, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes. On va jeter un œil à la presse en Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
La tension est toujours aussi grande, la peur aussi vive. À Pétionville, la commune a de nouveau été attaquée hier. Bonjour Franz Duval.
Bonjour.
Rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste, de nouveau des tirs, de nouveau des maisons pillées et incendiées.
Tout à fait, cela se passe dans la périphérie de la commune, ce n'est pas au centre-ville de Pétionville même, mais c'est Pétionville, c'est la commune de Pétionville. Il y a eu des affrontements, il y a eu des attaques, mais il faut dire que ces attaques sont quasi journalières et la réplique de la police et des brigades de personnes de la population sont aussi journalières. Il y a eu affrontement et hier, la police a sorti un communiqué pour annoncer que des bandits, plusieurs bandits, ont été mortellement blessés. C'est la formule de la police pour annoncer que des bandits ont été tués. Et une arme a été saisie, mais on n'a pas plus de précisions sur ce qui s'est passé vraiment, parce que ça ne s'est pas passé au centre-ville de Pétionville, mais plutôt dans des sections communales de cette commune.
Juste à côté, sur les hauteurs, il y a Kinskoff, très éprouvé par l'attaque meurtrière il y a trois semaines. Vous vous y êtes rendu, votre journal s'y est rendu, et vous écrivez qu'on est loin aujourd'hui du narratif selon lequel Kinskoff serait au bord de l'apocalypse. En fait, la commune aurait plutôt des allures de refuge.
Tout à fait, parce que là encore, c'est la même chose. Il y a le centre-ville de Kinskoff, qui est un petit village perché sur les hauteurs, qui a toujours été lieu de villégiature des riches Port-au-Princiens, qui a aussi une population qui est là depuis toujours, qui a toujours habité Kinskoff. Ce centre-ville de Kinskoff, avec l'église, la mairie, le marché, et ça continue de fonctionner. Les gens vivent assez paisiblement. Ça, c'est un premier Kinskoff. Il y a un deuxième Kinskoff qui est composé à la fois de gens qui ont trouvé refuge dans cette commune, qui habitent chez des amis, chez des parents. Ils sont plutôt mieux lotis. Et ensuite, il y a le Kinskoff des gens qui sont dans des centres d'hébergement. Et là, c'est plutôt très difficile car la petite commune ne s'attendait pas à ça. Officiellement, il y a plus de 1800 déplacés qui ont trouvé un endroit où dormir, où s'abriter, mais en réalité dans des conditions très difficiles. Hier, quand le nouvel s'est passé, on installait à peine les blocs sanitaires. Après plus de 15 jours, les gens sont sur ces sites. Et c'est un Kinskov très difficile. Et puis, il y a un troisième Kinskov où les journalistes n'ont pas pu se rendre. C'est là où se passent les affrontements entre la police et les gangs armés qui se sont retranchés dans des endroits inaccessibles et un peu loin du centre-ville de Kinskov. Mais c'est un contraste. La vie continue quelque part et en même temps, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude pour demain. Et en même temps, c'est le sentiment qu'à n'importe quel moment, Kinskov peut être submergé par les gangs et tout le monde se retrouver dans de beaux draps.
Franz, vous consacrez également un article aux auditions qui se poursuivent dans le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, notamment celle de l'ancien fonctionnaire de l'unité de lutte contre la corruption, Joseph Félix Badiot.
Tout à fait. M. Badiot s'est présenté devant le juge, c'est un procès en appel. Ils sont en train de rejeter l'ordonnance qui les accuse. Parce que dans ce procès, personne ne veut être coupable, personne ne se dit coupable, personne n'est vraiment coupable, parce que la justice n'a jamais pu présenter des preuves probantes de la culpabilité de qui que ce soit. Les discussions se poursuivent, mais tout simplement, à chaque fois que quelqu'un parle, il démontre ce qui est dans l'ordonnance. Parce qu'il y a une chose qui manque dans cette affaire, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'évidence solide. Et ce sont des déclarations, ce sont des appels téléphoniques, et à chaque fois, les accusés se défendent. Et la caricature qui illustre la une du Nouvelliste de ce matin explique que chacun dit que c'est l'autre le coupable.
Alors France, on va évoquer avant de vous laisser un sujet un peu plus léger. On prépare le carnaval en ce moment, carnaval prévu dans un peu plus de 2 semaines. Et les préparations vont bon train, notamment à Fort-Liberté.
Tout à fait. C'est la ville qui a été désignée pour recevoir le gros du carnaval cette année. C'est une décision du gouvernement. Il y a d'autres villes de province aussi qui sont plongées dans le carnaval depuis 4-5 semaines. Il y a des exercices qu'on appelle pré-carnavalesques qui se passent le dimanche. Ça, ce sont dans les villes de province. Port-au-Prince, Pétionville, Delma ne sont pas concernés cette année par le carnaval. Ils n'ont encore rien organisé. Mais en province, ça s'anime un petit peu. Et il y a un budget qui a été décaissé. Il y a des protestations de la société civile, des membres du secteur privé haïtien qui estiment que l'argent aurait pu servir à autre chose. Mais en réalité, il y a une partie qui s'amuse et une partie qui s'inquiète. C'est ça Haïti, c'est ça Port-au-Prince, c'est José.
Franz Duval, merci. Rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. On vous retrouve sur cette antenne la semaine prochaine et d'ici là, on peut vous lire sur le site lenouvelliste.com. Haïti encore, Vincent Souriau. Des poursuites envisagées contre des personnalités qui sont placées sous sanction par les États-Unis.
Eh oui, Michel Martelly, Laurent Lamotte, Jean-Henri Séan, Yuri Latortue, entre autres, accusés de corruption, de soutien à des gangs armés ou encore de trafic de drogue. L'ONU, les États-Unis ou le Canada ont déjà gelé leurs avoirs à l'étranger, prononcé des interdictions de voyage. Radio Télé Métronome rappelle que le gouvernement d'Haïti veut à son tour les poursuivre afin de lutter contre l'impunité des responsables politiques. Le CPT l'a annoncé il y a quelques jours. Mais il reste beaucoup de questions à trancher, note Métronome. Difficile pour la justice de mener ses enquêtes dans un contexte d'instabilité persistante, mais aussi en raison d'un manque de preuves dans ce dossier aussi, car Washington et ses alliés n'ont toujours pas fait suivre aux autorités haïtiennes le moindre dossier d'instruction.
À lire dans le New York Times, le sort glaçant des migrants emprisonnés à Guantanamo.
Exclu du Times qui a obtenu une liste de 53 noms, 53 hommes, des Vénézuéliens détenus dans une prison réservée jusqu'ici aux anciens membres d'Al-Qaïda et de surcroît gardés par des militaires en lieu et place des agents de l'immigration qui devraient les encadrer. On ne sait pratiquement rien d'eux. Le ministère américain de l'Intérieur n'a toujours pas divulgué leur identité et encore moins ce qu'on leur reproche précisément, si ce n'est qu'ils ont commis un crime aux yeux de la Maison Blanche en entrant illégalement sur le territoire des États-Unis et que certains de ces individus sont considérés comme des membres d'un gang violent. Aucun détail supplémentaire. Ils sont arrivés du Texas il y a une semaine. Leur famille n'avait jusqu'à ces révélations pas connaissance certaine de leur présence à Guantanamo. Plusieurs ONG Défense des droits de l'homme rapportent encore le New York Times. On saisit la justice car ces prisonniers doivent avoir accès à un avocat et ils ont droit à une procédure judiciaire équitable.
Oui, mais la Maison Blanche s'agace. menace ouvertement du travail des juges.
Que les décisions de justice ciblent ces opérations anti-migrants ou les suppressions de postes dans la fonction publique, il ne s'agit plus, selon la porte-parole de la présidence, de magistrats, mais de militants politiques qui outrepassent leurs fonctions afin de mettre des bâtons dans les roues de l'administration Trump. Charge donc au vitriol hier de Caroline Leavitt, patronne de la communication de la Maison-Blanche, qui s'assoit purement et simplement sur le principe de séparation des pouvoirs.
La véritable crise constitutionnelle a lieu au sein de l'autorité judiciaire, où des magistrats locaux et des juridictions locales à tendance progressiste abusent de leur pouvoir pour entraver les actes les plus basiques de l'exécutif. Nous estimons que ces juges se comportent comme des militants judiciaires plutôt que comme des arbitres impartiaux. Nous nous conformerons à la loi et aux décisions de justice, mais nous aurons recours à toutes les voies légales afin d'infirmer ces jugements extrémistes et de nous assurer que la politique du président Trump puisse être mise en œuvre.
En anglais, on parle de « weaponization of justice », l'utilisation de la justice comme une arme que Donald Trump a dénoncé tout au long de sa campagne, un processus qu'il estime encore et toujours plus à l'œuvre aujourd'hui.
La revue de presse signée Vincent Souriau, à retrouver sur internet rfi.fr.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Notre dossier du jour nous emmène au Pérou, où aujourd'hui encore, le conflit armé des années 80 et 90 reste un enjeu politique. À l'époque, la guérilla maoïste du Sentier Lumineux et les forces armées se sont livrées à une guerre meurtrière qui a fait près de 70 000 morts. Le musée de la mémoire de Lima tente de présenter les crimes, les massacres commis par les deux camps. Mais cela ne plaît pas à tout le monde, Martin Chabal, et le pouvoir politique essaie de peser dans l'histoire qui y est racontée.
Le lieu de la mémoire, de la tolérance et de la réconciliation à Lima est un musée au nom sans ambiguïté. Cet édifice en béton qui surplombe l'océan Pacifique essaye de remplir ses trois missions. Se souvenir des 70 000 victimes, morts ou disparues, du conflit armé péruvien des années 80 et 90, faire exister la voix de toutes les victimes et enfin réconcilier tous les Péruviens avec cette histoire douloureuse. Mais c'est une vision de la mémoire du conflit qui dérange les autorités péruviennes, notamment pour l'implication des forces gouvernementales dans certains crimes. Et dans son virage à l'extrême droite, le gouvernement péruvien a pris la décision de virer le président du musée, Manuel Burga Díaz. Une éviction brutale pour celui qui a été à la tête du musée pendant plus de 6 ans.
No es el museo de las víctimas.
Le pouvoir politique ne veut pas d'un lieu de mémoire, mais un musée pour montrer le triomphe des forces armées de l'État.
Une orientation politique du musée qui change totalement de cap comparé à son objectif jusque-là affiché.
Au lieu de la mémoire, on se souvient des violations des droits des paysans et de toutes les populations, de la brutalité du Sentier Lumineux, de la brutalité du mouvement révolutionnaire Tupac Amaru et de certaines patrouilles militaires et policières qui ont agi sans retenue. C'est quelque chose dont il faut se souvenir pour pouvoir le critiquer et s'assurer que cela ne se reproduise plus. Parce que cela pourrait se répéter dans les prochaines décennies.
Après avoir limogé Manuel Burga Díaz de la présidence du musée, la nouvelle administration a annulé tous les événements prévus. Pour les associations, c'est une nouvelle attaque contre la mémoire des victimes. Le musée avait déjà été fermé sans raison valable. En juillet, le Congrès a approuvé une loi protégeant les responsables de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis avant 2002. Rosario Narvaez, bénévole pour l'association Chemin de la Mémoire, est préoccupée par les changements politiques sur la mémoire des années sombres du Pérou.
Nous sommes inquiets de la suspension du musée et nous ne savons même pas s'il sera encore ouvert. Mais nous sommes aussi préoccupés par certaines déclarations au Congrès selon lesquelles il faut modifier l'histoire et rendre hommage aux forces armées.
Présente!
C'est aussi pour ça que la mémoire de ces victimes continue d'être racontée même en dehors du lieu de la mémoire de Lima. Eudocia Reynoso Barbosa est la veuve de Félix Gavilán, un journaliste tué pendant le conflit armé dans une petite communauté des Andes et recruté 2 semaines avant sa mort par l'agence France Presse. Cette année, elle n'a pas pu commémorer la mort de son mari au lieu de la mémoire comme cela était prévu avant l'éviction de Manuel Burga Díaz. Mais elle tient, coûte que coûte, à faire résonner l'histoire de son mari.
Je dis et je le dirai toujours, ils peuvent fermer le lieu de la mémoire, ils peuvent effacer toute l'histoire qui est là-bas, mais nos mémoires mémoire, nos souvenirs seront toujours vivants. Bien sûr, quand viendra le jour de notre mort, nos souvenirs prendront fin.
Rosario Narvaez et Eudocia Reynoso Barbosa sont parfois fatiguées par les attaques politiques contre la mémoire des victimes du conflit. Mais toutes les deux sont convaincues que tant qu'elles le pourront, elles témoigneront de ce qu'il s'est passé et feront vivre la mémoire des 70 000 victimes du conflit armé péruvien. Martin Chabal, Lima, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Benoît Ferrand. Les corps des deux dernières victimes du crash aérien survenu à la Dominique ont enfin pu être récupérés hier.
Récupération hier après-midi, rendue possible plus de deux semaines après le drame par les techniciens du peloton de gendarmerie de haute montagne, spécialement dépêchés sur place. Alain Livory.
Ce sont les gendarmes du peloton de haute montagne de Chamonix, spécialisés dans les interventions périlleuses, qui ont récupéré les deux derniers corps qui étaient restés prisonniers du Cessna qui s'est écrasé à la Dominique. Dans un communiqué, la préfecture de Martinique indique que les deux derniers corps ont été récupérés dans l'après-midi par les services spécialisés dépêchés sur place par l'État. Les corps ont été remis aux autorités dominicaises pour les analyses médico-légales. Ils seront ensuite remis aux familles. Deux premiers corps avaient été récupérés le 28 janvier par les pompiers du Grimpe avec l'appui de l'hélicoptère Dragon 972. La récupération des deux derniers corps avait été retardée en raison de la situation instable de l'appareil qui menaçait de se décrocher à tout moment. Une enquête a été ouverte. Elle devra déterminer les circonstances de ce drame.
Direction la Guadeloupe avec ce point d'étape du plan Chlordécone 4 lancé en 2021. Nous sommes à mi-parcours et le bilan serait pour le moins mitigé. Explication Julien Babel.
17 ans après le premier plan, l'heure n'est pas à l'autosatisfécite. 36 millions d'euros engagés, un peu moins de 28% du total prévu à 2 ans seulement de la fin de la période. Le plan couvre des analyses sanguines et des sols, la prévention ciblée pour les femmes enceintes ou les personnes surexposées selon les autorités, c'est-à-dire contaminées à plus de 0,4 microgrammes par litre de sang. Aussi, les contrôles des aliments et de l'eau potable sont renforcés, tout comme l'accompagnement des éleveurs et pêcheurs. Et puis, il y a le fonds d'indemnisation des victimes, mais les résultats sont limités. 13 dossiers ont été acceptés fin janvier, moins de 5000 personnes ont effectué un test de chlordéconémie en Guadeloupe et 20 éleveurs seulement ont rejoint le programme l'an passé. Peu mieux faire donc, il y a de quoi, notamment en matière de dépollution des sols, pour l'instant seulement expérimentale. Autre axe d'amélioration, la recherche. Si l'impact sanitaire est de mieux en mieux documenté, le plan prévoit d'aller plus loin et financer davantage d'études, notamment sur la santé des femmes ou l'évolution de l'exposition à ce poison.
Julien Babel de la Première Guadeloupe. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. On va écouter un peu de musique avant de se quitter.
Ok, merci.
Avec la Brown Family qui sera en concert ce soir à Montréal. Groupe québécois d'origine jamaïcaine. Put it back on rise up on top. J'suis un big brown boy. Pensez-moi pas que j't'emporte un autre top. N'est assisté de mon pop. Mon brother for sure. Ma mère for sure. Oh, demain c'est live, boy, c'est live. Fais-les le nécessaire. J'ai plein d'éphémères. Fais l'élever dans les airs. We gon' rise, shine, rise up on top.
Yes, we're going right. And yes, we're going.
Et c'est ainsi que se termine RFI Midi. L'émission était réalisée aujourd'hui par Hugo Vallière et Vincent Biteau. Vous restez à l'écoute dans quelques secondes maintenant de Vive Voix avec Pascal Paradou. Très bonne journée à tous et à demain.